L'émission de littérature, nous parlons avec François Boutonnet de Mnémosyne, une histoire des arts de la mémoire de l'Antiquité à la création multimédia contemporaine, paru aux éditions d'Ivoire. Bonjour à vous François Boutonnet.
Bonjour, bonsoir.
Ma première question, qu'est-ce que l'art de la mémoire ?
Alors, c'est une question un peu vaste, je vais essayer de la faire très simple. C'est un art qui est apparu dans la Grèce antique aux environs de 5 siècles avant Jésus-Christ. Et c'est une. Au départ, c'est un moyen mnémotechnique pour lister, par exemple, des arguments pour un avocat, pour une plaidoirie, par exemple. Donc, c'est une méthode mnémotechnique qui associe. La liste des choses à mémoriser et des étapes dans un lieu que l'on va parcourir toujours dans le même ordre. Et ce lieu est un lieu qu'on connaît suffisamment bien pour que on puisse parcourir ce lieu et retrouver toutes les étapes de ce lieu sans aucun effort de mémoire. Donc c'est un automatisme qui est créé dans le lieu et dans chacun de ces lieux, la station dans ces lieux fait appel, on place donc la chose que l'on veut mémoriser. Et après, quand on veut se remémoriser cette liste, par exemple, d'arguments, on parcourt le lieu dans l'ordre dans lequel on a l'habitude de le faire, et à chaque étape, on redécouvre les morceaux de pensée, les arguments qu'on a déposés. Alors, si je m'explique d'une manière un peu plus concrète, on mémorise, par exemple, un trajet qu'on connaît par cœur. Rapporté à l'époque moderne, ça va être, par exemple, le trajet entre la maison et le lieu de travail. Ou bien c'est un trajet à l'intérieur même de sa propre maison. Donc le lieu peut être soit un lieu réel qu'on connaît par cœur, soit un lieu inventé qu'on a truffé vraiment d'éléments, mais pareil aussi qu'on a parfaitement bien mémorisé. Et ensuite, je dépose chacun des arguments que je vais mémoriser sur les stations, dans l'ordre. Et ensuite, quand je veux me remémoriser les éléments que j'ai stockés ainsi dans ma mémoire, je refais le parcours dans ce lieu de mémoire. Et à chaque station, me revient les éléments que j'y ai déposés. Alors pour que ça fonctionne, il faut que dans chaque lieu, on ait trouvé un argument, une sorte de scénario pour accrocher l'idée que je veux mémoriser et le lieu en particulier. Alors par exemple, si je veux mémoriser une liste de courses et que mon palais de mémoire, c'est ma maison par exemple, hein, donc le vestibule, l'escalier, la chambre du premier, etc., etc., dans chacune des stations de ce parcours, et que je vais mémoriser à côté une liste de courses, hein, du pain, un bout de viande, du fromage, une salade. Dans l'entrée, je vais accrocher le pain. Pour mémoriser que dans l'entrée, il y a le pain, je vais trouver une astuce de présentation, une scénarisation tellement iconoclaste, tellement bizarroïde, que ça va me revenir d'une manière tout à fait évidente. Donc, par exemple, je vais mettre la baguette de pain dans un pot de fleurs qui est là dans l'entrée. Alors, le pot de fleurs, l'entrée, je les connais par cœur, mais qu'il y ait une baguette de pain dans le pot de fleurs, ça, c'est vraiment tranchant. Et donc, quand je vais me remémoriser mon parcours, dans l'entrée, je vais trouver cette baguette de pain dans le pot de fleurs, et là, la baguette de pain va me revenir tout de suite. Voilà, j'ai pris peut-être quelques raccourcis pour présenter cette méthode, mais c'est une méthode qui fait donc appel à la conjonction de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on met ensemble des lieux et des idées, et surtout un parcours, une déambulation ordonnée dans ce lieu, rappelant ces idées.
Et alors, est-ce qu'on peut historiser un peu l'art de la mémoire ? On est chez les Grecs, hein.
Alors, l'art de la mémoire, donc, c'est développé à partir de ces moyens mnémotechniques, mais très rapidement, il est devenu bien plus qu'un moyen mnémotechnique, c'est-à-dire qu'il est devenu une composante essentielle de la rhétorique et de la dialectique, et jusqu'à l'invention de l'imprimerie, cette importance primordiale hein, dans les enseignements sera vérifiée et sera de toute façon un des éléments de la scolastique, par exemple au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ce n'est que l'invention de l'imprimerie qui mettra fin à cette importance de l'arme de la mémoire dans la pensée, dans l'organisation de la pensée.
Alors, quel va être le rôle, par exemple, de Raymond Lulle ?
Alors, l'art de la mémoire dans l'Antiquité est d'abord un art, comme je viens de l'expliquer, mnémotechnique. Hein. C'est une époque où on n'a pas de machine à écrire, pas même de stylo. L'écrit et l'imprimerie n'est pas là pour venir faire circuler et transmettre des idées. Donc, l'art de la mémoire est là pour transmettre justement des idées, faire qu'elles ne se perdent pas, qu'on les retrouve. Cet art de la mémoire prend effectivement des connotations aussi kabbalistiques avec Raymond Lulle, donc qui est un philosophe majorquin du XIIIe siècle et XIVe siècle, et qui va faire avancer l'art de la mémoire dans une direction un peu nouvelle, c'est-à-dire que il va substituer aux scènes frappantes qu'on installe dans chaque lieu pour mémoriser quelque chose, il va remplacer ça par des rouages sur lesquels sont implantés des signes kabbalistiques, par exemple les premières, toutes les lettres de l'alphabet grec, mais aussi hébraïque, et puis quelques signes rajoutés comme les signes du zodiaque. Et ces roues étant complémentaires ou s'entremêlant les unes dans les autres, les combinaisons de ces roues faisaient qu'à chaque tour de roue, la conjonction de plusieurs figures était là donc pour faire l'élément de mémorisation que dans les anciens palais de mémoire on donnait à une scène frappante dans un lieu particulier. Donc il a, si vous voulez... Il a fait un travail un peu d'abstraction par rapport aux antiques palais de mémoire des Grecs, et c'était essentiellement une méthode destinée à pouvoir faire une sorte d'inventaire des savoirs humains. Il y avait une vision très clairement encyclopédiste chez Raymond Lulle pour reprendre ces éléments des arts de la mémoire sous un jour nouveau.
Et quelles améliorations va apporter Giordano Bruno ?
Alors, Giordano Bruno, trois siècles après Raymond Lulle, donc c'est au XVIe siècle, lui, alors, c'est sûrement le personnage clé un peu dans ce redéploiement des arts de la mémoire, de l'Antiquité à nos jours, puisque Giordano Bruno est quelqu'un qui va à la fois reprendre les avancées de Raymond Lulle, c'est-à-dire... des combinaisons, donc on est plus là dans une combinatoire qui évoque avec quelques siècles d'avance l'informatique aujourd'hui. Il va reprendre les combinaisons de Raymond Lulle, mais il va réimplanter sur ces roues qui tournent des scènes frappantes des antiques arts de la mémoire. Alors, effectivement, des roues qui tournent et des scènes frappantes qui viennent s'ajuster les unes dans les autres, avec trois siècles d'avance, on peut y voir comme une prémonition de l'art cinématographique et des arts visuels contemporains. Et... C'est ce travail que Giordano Bruno donc a effectué à partir des travaux de Raymond Lulle, mais Giordano Bruno a élargi complètement le sens et la portée des arts de la mémoire, puisque sur cette période de la Renaissance qui était un chantier ouvert sur les savoirs, la transmission des savoirs et toutes les nouveautés qu'allaient impliquer les découvertes de Copernic, par exemple. Donc il est complètement en phase avec ces nouveautés et il fait des arts de la mémoire un instrument justement de cette révolution à la fois scientifique des savoirs, de manière à ce que les arts de la mémoire non seulement perpétue la mémoire de quelque chose, mais surtout donne des clés pour comprendre un univers. Au moment de Giordano Bruno, on est vraiment dans l'idée de créer une sorte de théâtre de la mémoire. Hein. D'ailleurs, c'est un autre Italien qui s'appelle Giulio Camillo qui avait inventé ce terme de théâtre de la mémoire, c'est-à-dire cette idée de pouvoir mettre le monde dans un certain nombre de formules finies, enfin d'avoir une vision encyclopédique du monde là, au creux de la main ou en tout cas dans la tête. Et Giordano Bruno a participé donc avec son développement des arts de la mémoire à faire que les arts de la mémoire deviennent réellement un art de la pensée.
Nous allons rester en Italie. C'est quoi le jardin de mémoire de Bomarzo ? C'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, ce jardin.
Les arts de la mémoire dans l'Antiquité s'adressaient à des lieux de mémoire fortement individualisés. C'est-à-dire que chacun avait ses parcours de mémoire dans des lieux qu'il connaissait très bien. Alors, 1, 2, 15, on dit que certains étaient capables d'avoir plusieurs centaines de palais de mémoire en même temps. Au service de plusieurs centaines de textes ou d'idées donc à mémoriser. Mais c'était des lieux tout à fait individualisés, c'est-à-dire que chacun en avait le secret et la totalité. Ce n'était pas du tout une chose publique. Et donc, on a beaucoup de mal à se représenter ce qu'étaient les palais de mémoire individuels des personnes de l'Antiquité qui avaient recours à ces méthodes. Par contre, au fil du temps, et notamment au Moyen-Âge, les arts de la mémoire ont connu une sorte de voie publique. Hein. Je pense par exemple au parcours mnémonique des prières mises en service par exemple par les moines. Hein. Vous avez par exemple dans la cathédrale d'Amiens un labyrinthe au sol qui était un parcours mnémonique et qui était un palais de mémoire, hein, puisque chaque station était là pour rappeler, dans ce cas précis, une prière ou un élément d'une prière. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de réalisation objective ancrée dans le paysage d'un palais de mémoire. Au début de la Renaissance, ce passage justement à un palais de mémoire public, ouvert à tous, ou en tout cas à quelques-uns, s'est fait beaucoup dans l'architecture, mais notamment dans les jardins, dans le fait d'organiser un paysage, un parcours dans ce paysage, et que ce parcours dans ce paysage puisse évoquer des situations successives, des idées successives qui elles-mêmes constituer un parcours d'épreuve ou un parcours initiatique. Et c'est exactement le sujet même du jardin de Bomarzo en Italie, dans le sud de la Toscane, 200 km environ au nord de Rome, à côté de Viterbe et d'Orvieto. C'est un lieu magnifique, vraiment, j'y suis allé peut-être une quarantaine de fois et je ne m'en lasse jamais. C'est un lieu habité vraiment de sculptures géantes, hein, de 3-4 mètres de haut, taillées dans la pierre, et dont l'auteur avait organisé une déambulation dans ce jardin comme vraiment un parcours d'épreuves, chargé tout à la fois de se débarrasser des a priori et d'arrivée, de renaissance dans une nouvelle conscience de l'univers. Alors je m'explique, parce que chaque station de ce jardin de Bomarzo, sur ces sculptures, il y a des inscriptions en bas latin. La première, quand on rentre, c'est à peu près, hein, de mémoire, c'est « Toi qui vas entrer dans ce jardin, abandonne toutes les idées reçues que tu as » et va au-devant des merveilles que tu vas découvrir. Voilà, donc c'est une invitation à s'abstraire de toutes les certitudes qu'on pouvait avoir jusqu'à ce jour, essayer de faire un parcours de connaissances en élévation, c'est-à-dire qu'il va nous entraîner vers quelque chose dont on n'a pas idée ou qu'on ne soupçonne pas à l'entrée de ce jardin. Et après, donc, chaque station de ce jardin ouvre justement sur une pensée ou l'évocation d'un système de pensée qui va nous faire petit à petit découvrir un chemin de vie hein, et de renaissance même après la mort, puisque les dernières stations du jardin de Beaumarchais sont comme une sorte d'initiation à la disparition et à la réapparition. Voilà, c'est un jardin qui est un petit univers en lui-même et qui décline toutes les facettes de l'univers connu ou imaginé à cette époque-là de la Renaissance.
Alors, à la Renaissance, il y a aussi l'invention de l'imprimerie. Quel effet a l'imprimerie sur les arts de la mémoire ?
Alors, un effet assez dévastateur, il faut bien dire, puisque à l'arrivée de l'imprimerie, les arts de la mémoire ne sont plus reconnus comme l'une des deux ou trois vertus ou enfin parcours d'études absolument obligatoires, comme l'éloquence, comme la rhétorique, et perdent de leur crédit, pas complètement quand même, mais perdent considérablement de leur crédit. Comme par ailleurs l'invention de la perspective a aussi, quand bien même la perspective aurait eu des effets absolument, enfin, c'est une invention majeure évidemment dans l'histoire de l'humanité, ainsi que l'imprimerie. Ces deux inventions ont eu pour conséquence indirecte de geler pendant 3-4 siècles des pans entiers de vision des choses et d'organisation des choses qu'on ne retrouve que maintenant depuis un siècle avec l'invention du cinéma et puis surtout maintenant les progrès de l'informatique.
Et alors quel effet a eu Abi Wartburg, là on est au début du 20e, quel effet a eu Abi Wartburg, là on est au début du 20e siècle, oui. Est-ce qu'on peut parler de renaissance avec lui?
Alors Abi Wartburg est quelqu'un qui a travaillé un petit peu sur les arts de la mémoire, mais surtout a travaillé sur une approche transversale de tous les arts. Et c'est donc un précurseur de l'explosion, si vous voulez, des spécialisations dans l'histoire en général et dans l'histoire de l'art en particulier. Et Abi Wartburg a surtout travaillé l'histoire de l'art de la Renaissance, enfin de l'Antiquité à la Renaissance et au-delà, jusqu'à la photographie, à travers des tentatives extrêmement modernes dans leur forme, comme ce projet de bibliothèque, hein, Mnemosyne, d'ailleurs le titre de mon livre est tiré du projet de Abi Wartburg, Mnemosyne, qui était de constituer une sorte d'encyclopédie en images de l'histoire de l'art. Et à travers cette encyclopédie d'images, c'était pas tant chaque image en particulier qui était importante que le groupement d'images, et c'est-à-dire l'évocation que chaque image pouvait faire naître pour passer à la suivante. Abi Wartburg, c'était par exemple quelqu'un qui disait que quand on cherche un livre dans une bibliothèque, il ne faut pas aller chercher ce livre, mais aller chercher le livre qui est placé, situé juste à côté, et qui sera plus riche finalement d'ouverture que le livre strictement qu'on allait chercher. Pour donner un petit peu ce pas de côté hein, qu'a introduit Abi Wartburg dans la saisie du monde et la saisie de la représentation du monde.
Eh bien, merci beaucoup François Boutonnet d'avoir été en direct par téléphone avec nous pour nous parler de Mnemosyne, votre ouvrage aux éditions d'Ivoire que je recommande chaudement, une histoire des arts de la mémoire de l'Antiquité à la création multimédia contemporaine. Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Merci beaucoup à vous aussi.